Auditrices et auditeurs du studio Kalangou, merci de votre fidélité à nos programmes. Bienvenue dans l'émission Espace Femmes que vous suivez à travers nos 52 radios partenaires dans les 8 régions du Niger. Aujourd'hui, nous parlons santé et particulièrement des besoins spécifiques des femmes du troisième âge. Faits et chiffres, en 2022, le Niger comptait environ 940 000 personnes âgées, soit 4,4% de la population totale selon le ministère de la Santé. Dans un an, en 2025, cet effectif passera à plus de 1 million de personnes selon les estimations du ministère. En 2022, à l'occasion de la Journée mondiale des personnes âgées, l'ancien ministre de la Santé reconnaissait que les préoccupations des personnes âgées, leurs préférences et leurs intérêts ne sont pas prises en compte. Le poids de l'âge et l'affaiblissement de leur système immunitaire les exposent à toutes sortes de maladies. Entre dépendance et survie, des femmes du troisième âge s'adonnent à des petits travaux à Niamey. Au pire des cas, à la mendicité pour trouver des solutions à leurs problèmes de santé. Où trouver les soins nécessaires pour les femmes âgées? Comment améliorer la prise en charge sanitaire pour nos aînés? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, nous recevons trois invités. D'abord, Dr Andia Abdelkader, gériatre, c'est-à-dire médecin spécialiste de la santé des personnes âgées. Bienvenue à Studio Kalangou, docteur.
Bonjour, bienvenue.
Ensuite, Elhaj Oumar Garba, président du Conseil national des personnes âgées du Niger. Bienvenue, Elhaj.
Merci ma fille, et je suis ravi en tout cas d'être invité.
Et finalement, Madame Safinyandou, vous nous partagerez votre expérience de vie avec des personnes du troisième âge. Bonjour madame.
Bonjour mademoiselle.
À la présentation, je suis Zainab Abdou et à la technique, nous avons Issa Laoli. Nous le disions en introduction, une autorité gouvernementale du Niger a reconnu en 2022 que les préoccupations des personnes âgées, leurs préférences et leurs intérêts ne sont pas prises en compte. Deux questions pour commencer, Dr Andia Abdelkader. Qu'est-ce qu'une personne du troisième âge?
Alors, la personne du troisième âge est définie comme étant une personne qui a un âge supérieur ou égal à 65 ans, tel que le définit l'OMS. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Alors, ça, c'est une définition qui est internationale. Maintenant, il y a des spécificités. Il y a un cadre d'orientation qui a été tenu en 2001 par l'Union africaine qui plutôt penché pour une définition la personne du troisième âge à partir de 60 ans, notamment dans les pays africains, donc en Afrique de l'Ouest spécifiquement. Donc 60 ans et plus. Mais il faut comprendre à travers cette définition de troisième âge, les définitions ont été conçues, par exemple, à un stade où la personne va à la retraite, notamment à 60 ans. D'autres définitions, bien sûr, peuvent être proposées, par exemple, selon le contexte socio-culturel. Mais maintenant, s'il faut revenir côté santé, oui, côté soins de santé, la personne âgée du troisième âge, il faut avoir un regard sur les différentes pathologies qu'elle peut développer. On sait aujourd'hui, en classant les personnes âgées, par exemple, de 60 ans ou de 65 ans à 74 ans, communément, on les appelle des jeunes âgés ou des jeunes vieux. Pourquoi ? Parce que ils ont un profil de santé qui est comparable à l'adulte jeune, c'est-à-dire de 18 ans jusqu'à 59 ans, 60 ans. Donc, c'est plus ou moins le même profil de pathologie. Ils sont autonomes. Okay. Donc, vous faites très peu la différence entre quelqu'un de 60 ans, de 65 ans, de 66 ans et de 67 ans. Mais la deuxième catégorie, elle est de 74 jusqu'à 85 ans, par exemple. En ce moment-là, la personne commence à devenir une personne âgée. Okay. Vraiment vieux, comme on dit, entre guillemets, bien que ce terme n'est plus préconisé par l'OMS. Parce que le terme vieux est péjoratif maintenant. On dit une personne âgée, ou bien un aîné, ou bien un seigneur. Donc, à partir de 70 à 74 ans, la personne rentre de plein pied dans le patient gériatrique que le gériatre voit. C'est à ce stade-là que beaucoup de pathologies qui sont en relation avec l'âge se déclenchent. Et maintenant, vous avez l'autre classe, les personnes de 85 ans et plus. Ils sont des très âgés qui, en général, nécessitent un accompagnement, beaucoup des aidants ou professionnels ou bien familiaux. Et donc, voilà comment on classe les différentes personnes âgées.
Ok, docteur. Vous êtes médecin. Quels sont les besoins spécifiques en santé pour les femmes du troisième âge?
Alors, concernant la femme du troisième âge, d'une manière générale, les besoins spécifiques, il faudrait savoir qu'il y a d'une manière générale, il y a une féminisation de l'âge. C'est-à-dire qu'on remarque qu'avec l'âge avancer, les femmes sont plus nombreuses. Ça, c'est un fait. Maintenant, comment ça arrive? Bon, ils ont une espérance de vie plus longue que les hommes. Ils ont une activité, ils ont plein d'activités plus que les hommes. Maintenant, les besoins spécifiques, d'un point de vue gériatrique, c'est que ces femmes sont soumis, surtout dans notre contexte, à des besoins qui sont en relation avec le contexte socio-économique. Parce que finalement, la gériatrie prend en compte les besoins de santé dans un aspect qui concerne l'autonomie dans les soins. Aujourd'hui, avec l'âge, surtout quand la personne n'est pas fonctionnaire, on va peut-être le revoir après, c'est difficile de faire face à des besoins de santé. Ces besoins de santé sont spécifiquement liés aux besoins, par exemple, liés à la post-ménopause, par exemple. On sait que chez la femme, après la ménopause, il y a beaucoup de troubles somatiques, beaucoup de pathologies qu'elles peuvent développer qui sont en relation avec l'âge avancé.
Donc, je reviens à vous, Elage Umar Garba. Vous pouvez nous présenter brièvement le mandat du Conseil national des personnes âgées du Niger?
Mademoiselle Zainab Abdou Saïdou, merci beaucoup de me poser cette question-là. Et pour ça, je peux vous dire que nous sommes pratiquement dans l'informel parce que le Conseil national des personnes âgées a été installé le 23 décembre 2015. Malheureusement, depuis 13 ans, nous sommes derrière la loi sur la protection des personnes âgées qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore adoptée. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, si on compte de 2015 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? À peu près 9 ans que moi, je suis président. Mais juridiquement, puisqu'on n'a ni statut ni règlement intérieur, on n'a pas pu tenir une seule assemblée générale. Alors que dans l'arrêté qui met en place le conseil, on a dit que le conseil doit se réunir en assemblée générale tous les 3 mois. On a fait presque 9 ans sans aucune assemblée générale.
Donc, en tant que Conseil national des personnes âgées, que faites-vous exactement, concrètement, pour les personnes âgées?
Bon,
en attendant votre assemblée générale?
Nous faisons beaucoup de choses parce que d'abord, nous sommes un organe consultatif chargé d'étudier les problèmes des personnes âgées. Et pour cela, nous sommes sous tutelle du ministère de la Santé. Et nous sommes des partenaires. Et tous nos problèmes, tout ce que nous avons constaté, nous les amenons là-bas et on utilise ensemble. Puisque le conseil est installé sur l'étendue du territoire du Niger. Donc, on a toutes les informations concernant les personnes âgées, de la commune au département à la région. Et dès qu'on recueille ces informations-là, on les amène à qui de droit, c'est-à-dire au ministère de tutelle, pour examiner.
Selon votre expérience, quels services il leur manque en matière de santé?
En matière de santé, c'est des centres ou bien des centres de santé qui s'occupent uniquement des femmes, personnes âgées ou des hommes. Si on peut, aujourd'hui, on peut faire le bilan, il n'y a que deux pour le moment. Au niveau de Niamey, il y a la gériatrie de Niamey et celle de Maradi. On a dit, ne serait-ce que dans les grands centres où il n'y a plus de personnes âgées, et c'est dedans. À Maradi, on a fait. Mais le problème, c'est qu'il manque de matière. Il n'y a rien, il n'y a pas de matière. C'est le nom seulement. Même à Niamey, c'est le nom.
Donc, je m'adresse à vous, Madame Sefignandou. Parlez-nous des problèmes de santé récurrents que vous observez auprès des personnes âgées du troisième âge.
Concernant moi, mon expérience que j'ai vécue avec une personne âgée, plus précisément de ma maman, je vis avec elle. Donc, au début, avant, elle était...
Et votre maman, à quel âge?
Elle a 90 ans. Au début, elle avait un problème de tension, elle était hypertendue, elle était diabétique. Par ces problèmes-là, elle n'avait aucun problème. Au fil des années, l'arthrose s'est installée. Donc, à part ces 3 maladies-là, qu'on partait voir les médecins à cause de ces 3 maladies, elle n'avait aucun problème.
À part l'arthrose, elle a quoi d'autre comme maladie?
À part ces 3 maladies-là, chez moi, je dirais qu'elle n'a aucune maladie vraiment qu'on peut appeler pathologie à part la vieillesse. Parce qu'il y a certaines maladies qu'on dit que c'est la vieillesse qui les entraîne. Donc pour moi, bon, le fait d'oublier les gens, moi qui vis avec elle, des fois elle ne me reconnaît même pas. Avant-hier, j'étais revenue du boulot, je lui ai dit bonjour, Hajia. Elle m'a dit bonjour, puis... c'est fini. J'étais partie aux toilettes, je suis revenue, j'ai dit, Haja, et votre santé? Elle me dit, c'est qui? J'ai dit, c'est moi, Safi. Elle me dit, ah, bonne arrivée.
Donc, en général, comment se passe votre cohabitation avec elle?
Bon, tout se passe bien. Il faut avoir de la patience, c'est tout. C'est tout. Parce qu'à un certain âge, on devient un enfant. On devient un enfant. Je vis avec elle, elle est devenue comme une enfant. Donc, il faut toujours aller, comme on dit dans le jargon, mollo-mollo avec elle. Sinon, ça ne peut pas aller.
Que cette personne reçoit-elle tous les soins médicaux dont elle a besoin?
Oui, parce qu'elle est suivie par un docteur, un cardiologue et un rhumatologue. Donc, de temps en temps, chaque 2 mois, on va à leur rendez-vous. On fait les examens nécessaires pour les contrôles et tout. Donc, s'il y a lieu d'augmenter un produit ou bien de diminuer, on diminue ou bien on augmente.
L'avez-vous une fois amené chez le gériatre?
Non.
Pourquoi cela?
Bon. sais pas, on n'a jamais pensé à ça, mais ces jours quand même, comme j'ai vu que la situation se désagrège au fil des jours, j'ai pensé à ça, j'ai dit que je vais en parler à mes sœurs, on va voir s'il faut l'amener à l'hôpital de référence ou bien dans la clinique gériatrique du docteur Andia.
Ok, docteur, dans le cas précis de cette dame, avez-vous des choses à suggérer?
Si. Alors, il y a deux ou trois choses à préciser. D'une manière générale, il faut savoir que la personne âgée, comme on avait dit, à partir de 70 ans, pas le jeune âgé comme président. Donc, à partir de 70 ans ou bien 74 ans, il y a un certain nombre de pathologies qui développent. Notamment, le premier type de pathologie, ce sont les maladies qui sont en relation avec la mémoire. Donc, ce sont des pathologies qui sont en relation avec l'état cognitif, l'état mental, les fonctions supérieures. C'est quoi les fonctions supérieures? C'est le langage, la mémoire, la concentration, la capacité d'être figé sur une chose sans être distrait, l'attention, d'accord? Donc, ce sont ces fonctions qui sont en général touchées ou bien certains troubles pour exécuter facilement certains mouvements. Dans ce cas, on remarque une ralenteur. Donc, c'est le premier groupe de pathologies. Ensuite, il y a d'autres affections qui entraînent, par exemple, la dépendance, la perte d'autonomie. La personne, elle est âgée, mais elle ne peut pas, par exemple, faire ses besoins naturels. Par exemple, elle ne peut pas elle perd les urines. Par exemple, elle a des difficultés à s'habiller. Par exemple, même pour s'alimenter, il faut l'aider parfois. Ça fait, donc, c'est un problème de dépendance. Le troisième groupe d'affection, c'est souvent, ils sont dénutris. Ils ne mangent pas bien. Et donc, il y a une dénutrition qui s'installe progressivement. La dénutrition, en s'installant, il y aura ce qu'on appelle la sarcopénie, qui est la fonte musculaire. Donc, progressivement, le muscle se perd à une atrophie musculaire progressive. Et ensuite, il y a également l'autre pathologie qui est fréquente, c'est la dépression. Ils sont entre quatre murs, la monotonie et la dépression s'installe, qui fait en sorte que c'est vraiment un sentiment de tristesse tout le temps, une perte d'estime de soi, une dévalorisation, une culpabilité. Donc, on ne se sent pas assez utile pour la société. Donc, d'une manière générale, ces 4 ou 5 types de pathologies, bien sûr, associées au risque de chute, elles sont tellement fragiles qu'elles ne veulent pas faire un pas. Pourquoi? Parce qu'elles pensent qu'en marchant, elles vont tomber et se casser. Et donc, vous voyez, ces 4 ou 5 types de pathologies sont fréquentes avec l'âge avancé. Maintenant, on revient, si on comprend ça, on revient dans ce qu'elle a dit. Elle a évoqué le problème de mémoire. Pour revenir à la patiente, à sa maman, vous avez vu, on a entendu un problème de mémoire. Elle dit c'est qui? Ça signifie que ça rejoint un peu la première affection dont j'avais dit, les problèmes neurodégénératifs, les problèmes de mémoire. Ensuite, il y a l'hypertension artérielle et le diabète. C'est pourquoi, pour avoir une bonne santé à l'âge avancé, il faut, dès à l'âge adulte, traiter très bien les pathologies qu'on a. Parce qu'elles vont se retentir à l'âge avancé. Certainement qu'elle était hypertendue, diabétique, en ce moment-là. Et en fonction du suivi, très bien fait, si ce n'est pas bien fait, ça va retentir sur l'âge, à un âge avancé. Et l'une des pathologies qu'on sait aujourd'hui, par exemple, est ce qu'on appelle les démences vasculaires. C'est quoi les démences vasculaires? C'est un problème de mémoire, d'oubli, ou même de fausse reconnaissance de visage qui est lié à l'hypertension artérielle et au diabète, dont les complications agissent sur le cerveau.
D'accord,
et
docteur.
Qui explique probablement ces problèmes de mémoire qu'elle fait chez cette dame.
D'accord, docteur, nous allons y revenir. Selon les estimations du ministère, l'année prochaine, en 2025, l'effectif des aînés passera à plus de 1 million de personnes. Docteur Andia Abdelkader, comment évaluez-vous le ratio de personnes médicales qualifiées par rapport au nombre de personnes du troisième âge?
Je pense que on est loin du compte. Peut-être que c'est pas mieux de faire les calculs. Si le président vous dit que on était 2 gériatres, alors là, on a une population de quoi, 25-26 millions d'habitants. Vous voyez que il faut même pas faire les calculs.
Et ça, vous êtes exactement combien actuellement?
Et ça, alors, je dirais que il y en a qui ont soutenu récemment 4 ou 5. Peut-être qu'il y a 5 ou 6 gériatres. Et il y a d'autres qui sont en formation. C'est sûr. Donc, je n'ai pas le chiffre exact. Mais c'est que sur d'année en année, ça augmente. Et donc, vraiment, vous voyez, 5, 6, on est à 26 millions d'habitants.
Merci à tous pour vos interventions dans ce premier tour de table. Dans un instant, nous allons aborder le point crucial de l'accès aux soins spécifiques en matière de santé pour les personnes du troisième âge. Nous prenons une courte pause et on vous revient. Auditrices et auditeurs du studio Kalangu, vous écoutez l'émission Espace Femmes. Avant d'entrer dans le vif du sujet de notre forum du jour, nous allons écouter des témoignages recueillis à Koni, région d'Ottawa, sur l'accès aux soins de santé des femmes du troisième âge.
Il s'occupe vraiment bien des personnes âgées. Moi, je suis témoin car j'ai amené mon père au centre de santé. Le jour où je l'ai amené, un médecin nous a trouvés. C'est un dermatologue qui nous a trouvés dans le rang. C'est lui-même qui a demandé aux autres de se lever pour donner la place aux vieux. J'étais fier de cet acte. Il est donc important que les agents de santé s'occupent rapidement des malades dès qu'il est admis dans un centre de santé parce qu'il est venu pour être soigné. Je pense qu'il est nécessaire que l'État fasse en sorte que les personnes âgées de 70 ans, par exemple, aient un traitement spécial dans les centres de santé ainsi que les personnes à faible revenu pour les soulager, comme cela a été fait pour les enfants de 0 à 5 ans. D'un côté, je peux dire que je suis satisfait et d'un autre, pas du tout. Aujourd'hui, dès qu'une personne atteint un certain âge, 70 ans par exemple, si elle tombe malade et que ses enfants ne réfléchissent pas profondément, ils vont se dire que ce n'est pas nécessaire de l'amener dans un centre de santé. Pourtant, certaines maladies n'ont rien à voir avec la vieillesse. Il peut être atteint d'une même maladie qu'un jeune. Si on vous fait les mêmes soins, il peut recouvrir sa santé. De notre point de vue, je dirais que les agents de santé s'occupent bien des personnes âgées. Certains ne peuvent rien faire eux-mêmes. Pour tout, il faut les assister. Mais à chaque fois, les médecins, les infirmiers sont à leur côté. C'est leur devoir. Il y a parmi eux qui connaissent la valeur d'une personne âgée. Même quand ils savent que le malade ne va pas s'en sortir, ils vont continuer à s'occuper de lui jusqu'à ce que Dieu prenne sa décision. Il y a des personnes qui ont pitié et d'autres, c'est le contraire.
Donc, vous avez écouté les témoignages. Question générale à vous trois. Docteur Andia Abdulkader, quelle analyse portez-vous aux propos que vous venez d'entendre?
De ce que je viens d'entendre, il y a deux, trois commentaires à faire. Alors, le premier intervenant parlait d'une patiente, de sa maman qu'il a amenée, je pense, âgée, de 70 ans environ. L'agent de santé a demandé aux autres de se lever pour lui donner la place. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, vous voyez que c'est spontané. Vu l'âge de la personne, chez nous, culturellement, c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc c'est un âge, c'est un avantage. Et donc, ça amène déjà une proposition qui a été faite par l'OMS depuis longtemps. Il faut que les structures de santé répondent aux besoins des personnes âgées. Parce qu'une personne âgée, elle vient à l'hôpital à 7h ou bien à 8h, elle trouve 30 jeunes, mais elle fera la ligne comme les autres. Elle n'a pas forcément les mêmes capacités physiques de résistance. La prostate est là, il faut aller uriner la personne. Donc, vous voyez, c'est important qu'on crée des structures adaptées aux besoins des personnes âgées. Ça, c'est la première des choses qu'on relève. Et maintenant aussi, avec la formation, il faut former les agents de santé. Les infirmiers, tous les agents de santé qui vont sortir, il faut les former aux besoins des personnes âgées. Le deuxième intervenant qui parlait de questions de l'âge, que l'âge, finalement, n'est pas une pathologie. L'avancée n'est pas une pathologie. Parce que moi, actuellement, je vois des personnes de 100 ans qui sont encore autonomes. Donc, il ne faut pas mettre tout sur le compte de l'âge. Non. Ça, c'est vraiment une erreur fatale qu'il faut faire, que les gens font beaucoup. Et les gens profitent de l'âge pour dire que non, elle est âgée, elle n'a pas besoin de manger. Elle est âgée, c'est l'âge qui fait en sorte qu'elle oublie. C'est l'âge qui fait en sorte que laissez-la tranquille, au repos. Non, au contraire. Dès qu'une personne âgée, on remarque qu'il y a une rupture dans son comportement habituel. Que ce soit l'alimentation, que ce soit le sommeil, que ce soit tout ce qu'elle fait d'une manière générale tout le temps. Dès qu'on remarque 2-3 jours, elle ne le fait pas, il faut rapidement consulter. Il faut dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et aller consulter. Parce qu'on peut tomber sur des pathologies qui sont liées à l'âge, qu'on corrige et que tout rentre dans l'ordre. Et enfin,
donc,
le troisième commentaire.
Il faut être à leur écoute et les observer.
Il faut être à leur écoute, il faut être attentif. Comme ils l'ont été avec nous quand on était très jeunes. Parlant de revenus, et on avait parlé de ça, il y a moins d'un million de personnes âgées au Niger. Donc, ça signifie que 1 million de personnes âgées, je pense que si on fait une très bonne politique de santé, parmi ces 1 million ou 2 millions de personnes âgées, qu'on rend compte que s'il y a des gens qui sont très fragiles, qui ont ou des problèmes de mémoire, des problèmes d'alimentation, de nutrition, des problèmes de besoin de santé, je pense que c'est possible de trouver une stratégie pour essayer
le docteur, nous allons y revenir les solutions.
Merci beaucoup.
Donc, Alaj Umar Garba, vous avez écouté ces témoignages. Mm-hmm. Donc, quelle analyse portez-vous à à ces propos.
Merci, Mme Banzer. Je pense que peut-être cette personne âgée a eu la chance de tomber sur un infirmier qui a été bien éduqué. Parce que nous remarquons le plus souvent dans les hôpitaux, et j'ai eu à leur dire ça plusieurs fois, que les personnes âgées sont maltraitées au niveau des centres de santé. Quand vous allez à l'hôpital, vous allez voir des personnes âgées qui sont à même le sol. Il n'y a rien. On a fait plusieurs ateliers pour dire qu'il faut séparer les personnes âgées des autres. Parce que la personne âgée a besoin d'autres choses que les jeunes n'ont pas besoin. Il a parlé tout de suite, par exemple, de la poisson. Il faut uriner beaucoup. Donc, il faut qu'il y ait des toilettes.
Les séparer ou bien les isoler
Non, leur box à part. C'est-à-dire que quand vous êtes personne âgée là, vous n'avez pas besoin de les... C'était même au niveau de l'aiguillage là, il faut qu'on vous oriente vers votre box, votre hall. C'est uniquement c'est réservé aux personnes âgées. Donc, il parle de... L'autre, il a parlé bien d'un traitement spécial. Il a raison, il faut... Moi, j'ai vu beaucoup de personnes âgées qui sont... décédé par rapport au traitement qu'on a fait. On vient, on te consulte pas, on te fait pas d'examen, on te met les trucs, comment elle appelle, le sérum, et il se trouve que la personne a déjà le diabète. Donc ça veut dire que il faut que l'État prenne toutes les dispositions. On ne dit pas de faire tout à la fois, il faut avoir une vision.
Justement, à l'AGI, dans ce sens, comment pensez-vous que les médecins peuvent participer à la planification avec le conseil?
Oui, c'est-à-dire que le docteur India Pagé, il nous a approchés depuis longtemps. Même à l'occasion de soutenance sur les personnes âgées, moi plusieurs fois il m'a invité. Par exemple, eux, ils sont spécialistes de personnes âgées. Ils savent comment approcher, parce que l'approche, c'est très important. Ils savent comment approcher. Mais l'État aussi doit... former beaucoup de médecins dans ce cadre-là, de gériatres, pour vraiment... Parce que, de toute façon, celui qui a la chance va vieillir. C'est pourquoi nous, au niveau du conseil, nous sommes en train de lutter.
Est-ce que les commentaires du docteur Andia peuvent alimenter vos réflexions au niveau du conseil?
Mais on travaille ensemble. On travaille ensemble et il nous conseille, c'est celui qui est spécialiste. Mais je pense que, même sur le pourcentage qu'on a dit là, d'ici 2025, 1 million là, mais... Il faut faire la part des choses. Moi, je ne dirais pas qu'il y a 1 million. Je vais vous expliquer. Vous savez que la plupart des personnes âgées sont des retraités.
Oui.
Et les retraités sont pris en charge au point de vue en consultation, souvent à 80%. Et à la carénie, c'est 90% même. Pour les fonctionnaires, peut-être si on déduit, c'est en zone rurale que peut-être il faut aller les prendre en charge, aller les chercher. Et ça, vraiment, c'est l'État qui doit aider. Parce que j'ai oublié, il y a aussi la famille. La famille qui doit aider la personne âgée. Vous voyez, j'ai vu des exemples très amers. Où, en 2017, j'ai trouvé une vieille femme qui a plus de 70 ans. D'abord, là où elle vit, dans sa chambre, c'est un poulailler. Ensuite, elle vit dans un enclos de chèvres, wallahi. Elle vit avec les chèvres la journée. Et la nuit, elle est dans un poulailler. Ça, c'est deuxième cas, j'ai vu ça à Tawa.
Mais vous, en tant que...
S'il vous plaît, je vais finir, après je vous poser la question. J'ai vu ça à Tawa, un couple de personnes âgées, avec ses enfants, et ses enfants sont là, ils ont fait un trou pour le mettre. C'est-à-dire qu'en cas de besoin de tout, c'est, ils font ça là-bas. Ses enfants sont, wallahi, le jour où on était de la ministre de la Population, elle voulait rentrer, même elle était tombée. Heureusement, elle voit qu'il y avait son garde-corps qui l'a. La protection, ou bien des personnes âgées, doit commencer d'abord par la famille. Tant que la famille ne s'implique pas, l'État ne peut rien faire. Donc je vais m'arrêter à poser vos questions si vous voulez.
Ok. Docteur Andia, vous avez entendu ce que El Hadji Oumar a dit. Vous avez des réactions par rapport à cela?
Oui, bon, spécifiquement à ce qu'il vient de dire, ce qu'on appelle la maltraitance des personnes âgées. Cette maltraitance se fait sur plusieurs formes. Ce qu'il vient de dire, c'est une négligence, c'est un délaissement. Et tout ceci est mis sous le compte de l'âge. La personne, elle est âgée, elle a 70 ans, 80 ans. Elle ne demande rien, elle ne fait rien, elle ne parle pas, donc on l'isole. Ça, c'est la forme de maltraitance, peut-être qui est subtile. Il y a d'autres formes de maltraitance, il y a des cas de violence, par exemple. Ou bien simplement, la personne âgée, elle a travaillé pendant longtemps, elle a tous ses revenus, et comme les enfants sont là, ils sont incapables d'assurer sa ration alimentaire. c'est aussi une forme de maltraitance. Ou bien vous savez qu'elle ne veut pas la chose, comme elle ne peut pas parler, vous ne faites pas. Ou bien on privilégie d'autres personnes par rapport à elle. Donc vraiment, c'est des cas extrêmes. Et c'est pourquoi il y a un travail de sensibilisation à faire, très important, pour revenir à nos valeurs.
Donc je reviens à vous, Madame Safi. Donc
je voulais même intervenir là-dessus. Parce que le cas que Alaj a donné, actuellement, j'ai un cas palpitant comme ça. Elle est vivante, ça fait plus de 5 ans qu'elle est là. Elle regarde les gens, elle ne parle pas. Elle ne fait rien si ce n'est pas ses enfants. L'année passée, là, je ne sais pas comment ils ont fait pour que celle qui est couchée ait la jambe cassée. Je ne sais pas comment ils ont fait. Donc, après ça, maintenant, elle est rétablie. Une fois, j'ai rencontré une de ses filles, j'ai dit, hey, ma petite sœur, tu te délaisses de trop, regarde, tu es plus vieille que moi. Elle me dit, le fait qu'elle soit tout le temps avec la maman là, c'est ça qui l'a fait vieillir. Donc, exactement, il faut la présence de la famille, le soutien de la famille pour cette vieille personne là. C'est pas pour me vanter. Chaque jour, mes sœurs et moi, on est au moins peut-être 4 qui passent la journée avec elle. On lui fait du cinéma, on la fait rire, on la distrait un peu. Donc le soir à 18h, celles qui vont chez elle rentrent, moi je reste à la maison. Les dimanches, tout le monde est là. Elle est contente, elle est rayonnante. Et pour moi, c'est ça qu'il faut faire à ses parents, parce que c'est un droit pour eux.
Ok, une question madame. Et comment préparez-vous les jeunes à prendre soin des personnes âgées?
Pour préparer les jeunes à prendre soin des personnes âgées.
Oui, à votre niveau.
À mon niveau, chaque fois, les enfants qui sont avec nous, je les sensibilise. Parce que je les fais venir pour dire que, au moment où vous voyez cette dame-là devant vos yeux-là, un beau matin, vous allez vous réveiller, elle n'est plus là. Donc, c'est pas après sa mort que vous allez dire que je vais faire une fatia pour elle, sadaka pour elle, non. Ce que vous pouvez faire là, venez, faites-le avec moi, vous allez apprendre. Parce que, prochainement, ça serait vos mamans ou bien vos papas à sa place. Donc, il faut apprendre dès maintenant à vous occuper d'elle. Vous allez voir ce que je fais, vous allez aussi le faire.
Docteur Andia Abdelkader nous a parlé d'un nombre très faible de spécialistes de la santé des personnes âgées. Parmi les rares gériatres nigériens, les aînés peuvent compter sur une collègue du docteur Andia Abdelkader. Elle s'appelle Zara Idriss Meiga. Vous la connaissez, n'est-ce pas, docteur?
Bien sûr.
Donc, nous allons écouter le portrait de docteur Zara Idriss Meiga.
Âgée de 40 ans, mariée et mère de 5 enfants, docteur Idriss Meiga Zara, médecin généraliste et spécialiste en géontologie et gériatrie à l'hôpital général de référence de Maradi, nous parle de son parcours.
J'ai fait mon baccalauréat D en 2006 au lycée Sonia à Libert. Après, j'ai effectué des études médicales à la faculté de médecine et d'odontostomatologie de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako, où j'ai eu le diplôme de docteur en médecine. Puis, j'ai continué mes études pour l'obtention du diplôme de DS de gériatrie à l'UFR des sciences médicales de l'Université Fatou-Boigny à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, après ça, j'ai continué en France pour faire le diplôme de DFMS de gériatrie à la faculté de médecine de l'Université de Louvain, Clermont-Ferrand. Et en même temps, en France, j'ai continué avec un deuil de fragilité et d'évaluation gérontologique au CHU Henri Mandol à Créteil.
La gériatrie est une spécialité nouvelle au Niger et qu'elle exerce depuis maintenant 4 ans. Elle explique pourquoi elle a fait le choix de cette spécialité.
Mon choix pour la gériatrie remonte à la troisième année de formation médicale où j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes âgées à l'hôpital, mais il y a une négligence envers ces personnes âgées. Donc quand j'ai fini la médecine, et un de nos maîtres qui était mon directeur de thèse, le professeur Eric Adéossi, m'a parlé de la gériatrie. Comme j'étais déjà passionnée, ça m'a vraiment permis d'aller m'inscrire à lui faire d'Abidjan pour faire le 2S de gériatrie.
Comme tout travail, il ne manque jamais de difficultés. Docteur Idriss Meiga Zara en rencontre dans son travail quotidien. Cependant, ces dernières n'entravent en rien son dévouement pour sa spécialité.
Les difficultés que je rencontre dans la prise en charge de ma spécialité, surtout la méconnaissance, je dirais, des agents de santé sur la gériatrie et les personnes âgées elles-mêmes ne connaissent pas la gériatrie. Et ici au Niger, c'est vrai que c'est une spécialité innovante. Il n'y a pas de d'infrastructures ni de services pour la prise en charge des personnes âgées. Donc, c'est surtout ça la grande difficulté. Mon appel face aux personnes âgées, c'est de leur dire d'écouter leur corps et de savoir qu'il existe des gériatres au Niger. On est au nombre de 3 à présent. Et de voir un gériatre pour tout changement dans leur corps. Parce qu'il y a des fragilités. On peut ne pas être malade et avoir beaucoup de fragilités. Donc, c'est la fragilité qui fait que quand les personnes âgées tombent malades, ils sont différents des adultes. Donc, cette fragilité fait qu'ils tombent facilement en cascade. Donc, on peut très bien vieillir en bonne santé avec toutes ses facultés physiques et mentales en se faisant suivre par un médecin gériatre.
Docteur Agali Zibine Reichou, médecin spécialisé en géontologie et gériatrie et coordinatrice nationale de Women's Global Health du Niger, une de ses collègues ne tarit pas d'éloges sur sa personne et son travail. Elle s'est dit satisfaite de leur collaboration.
Docteur Zare Idriss Omega, c'est une collègue formidable, tout simplement. Docteur Zare Idriss Omega est un médecin exceptionnel qui travaille sans relâche, qui fait des efforts au quotidien pour le perfectionnement de la prise en charge des personnes âgées et de tous les patients qui la consultent ou qui demandent son avis. Elle aime partager son expérience, elle inspire et elle motive pour aller de l'avant. C'est vraiment pour moi un leader exemplaire. C'est une femme qui aime partager, qui aime aussi écouter et je la remercie de m'avoir boostée. Je dirais qu'elle m'a boostée parce que j'ai été motivée pour aller passer, par exemple, des longues années de formation en France dans plusieurs domaines. Des perfectionnements de la spécialité, bien sûr, la gériatrie toujours. Notre collaboration avec Dr Zara Maiga se passe très bien parce qu'elle aime partager, elle aime vraiment le travail en équipe et elle n'est pas du tout un médecin complexé, c'est-à-dire c'est un médecin vraiment qui peut faire appel à tout le monde pour la prise en charge des patients ou encore sur tout genre de documents sur lesquels elle travaille.
Malgré tous les aléas, Dr Idriss Maiga Zara exerce son travail au quotidien.
Travail et vie privée, je dirais très difficile. Déjà, étant juste femme médecin et spécialiste, sur place dans son foyer, est très difficile à joindre les deux bouts. À peu raison, être femme et spécialiste et être loin de son foyer. On arrive difficilement à joindre les deux bouts. Par la grâce d'Allah, on a des maris qui sont très compréhensifs, qui arrivent à comprendre notre situation. Mais c'est très difficile de se concentrer et de travailler dans son domaine, étant loin de son foyer.
Concilier vie privée et professionnelle n'est pas chose aisée. Docteur Idriss Zara Maiga arrive tant bien que mal à se consacrer aux deux.
Expérience inspirante, n'est-ce pas? C'était le portrait de Docteur Idriss Zara Maiga. Donc, nous sommes à la dernière partie. Donc, Madame Safinyandou, je commence par vous. Mm-hmm. Que pouvez-vous nous dire à propos du travail de Docteur Zara après avoir écouté son portrait?
J'apprécie son travail. Je la félicite aussi. Et si on peut avoir 2 ou 3 Zara comme ça, ajouter au docteur Andia, vraiment, les personnes âgées vont s'en sortir.
Ok, Alej Oumarou Garba, oui. Quelle appréciation faites-vous du travail de docteur Zara?
Bon, je ne peux que vraiment la féliciter, l'encourager. Moi, je connais bien docteur Zara Maiga. Elle est de maladie, mais quand elle vient à Niamey, sachant que je suis une personne âgée, elle me cherche. Hein. Elle a l'habitude de m'amener dans le bureau du docteur India pour lui dire, pour lui faire une recommandation. C'est notre papa, il faut t'occuper de lui. Et elle a l'habitude, même à partir de maladie, de m'envoyer des médicaments. Donc vraiment, c'est une femme exemplaire à suivre et qu'on ne peut pas trouver. En tout cas, parce que elle a la conscience professionnelle. C'est-à-dire que l'étude qu'elle a faite, là, vraiment, c'est pour les personnes âgées et elle s'occupe des personnes âgées.
Docteur Andia, selon vous, comment faire pour former d'autres docteurs Zara?
Bon, ça, c'est pas à moi de répondre. Je sais que...
Mais est-ce que vous encouragez les jeunes médecins à se spécialiser en gériatrie?
Bien sûr. Alors moi, je peut-être qu'on n'avait pas dit ça au tout début, moi je suis enseignant-chercheur donc à la faculté des sciences de la santé de l'université Abdoulmoum de Niamey au Niger, je suis maître assistant. Et le cursus de la formation pour la gériatrie, il est déjà dans le programme. On l'enseigne et on l'enseigne aussi aux médecins spécialistes qui vont devenir des internistes, donc c'est intégré dans leur formation. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il faudrait intégrer la formation de la gériatrie au niveau des écoles de santé. Je pense que Dr Zahra en a commencé à Maradi, elle le fait déjà. Mais il faudrait que l'État, à travers le ministère de la Santé, public et des Affaires sociales, puisse se dire qu'il faut qu'il y ait un programme pour que l'enseignement de la gériatrie doit être effectif dans les écoles de santé. Après cela, on peut concevoir le master jusqu'au doctorat.
On commence par vous, docteur. Donc, quelles recommandations et d'actions concrètes faut-il faire pour améliorer la prise en charge sanitaire des personnes âgées et notamment des femmes?
Ce que je dirais, on était déjà en réflexion avec certains de nos collègues sur l'approche participative communautaire de la prise en charge des personnes âgées au niveau du Niger. Pourquoi cette approche participative? Parce que il faut pas faire du copier-coller. On veut pas faire des maisons de retraite. Non. Il faut trouver une autre façon de prendre en charge nos papas, nos parents, et à ne pas les éloigner de la maison, en les gardant très proches de nous. Et pour ça, il faut créer une approche participative communautaire. Dans le schéma de ce qu'on veut faire, le Conseil national des personnes âgées a une place importante. C'est-à-dire que le Conseil national va être l'organe phare qui crée le pont entre les patients, les personnes âgées qui ont beaucoup de problèmes de santé cachés, qui ne disent pas. Quand ils sont avec eux, on va mettre des représentations telles que, par exemple, les imams du quartier, les personnes les plus âgées, certains anciens fonctionnaires, pour qu'on puisse avoir des structures communautaires. Je dis bien communautaires, c'est-à-dire qui se trouvent dans la commune, pas à l'hôpital. Comme ça, ils auront l'entourage familial, ils auront la chaleur familiale et ça va aider sur le plan psychologique à la prise en charge. Donc vraiment, je pense que, et pour tout cela, il faut une politique.
D'accord, merci docteur. Donc je viens à vous, Madame Safiendo. Et docteur Andia vient de parler de soins à domicile. À votre niveau, de quoi avez-vous besoin pour que la prise en charge soit complète à domicile pour votre patient?
De quoi on a besoin pour que la prise en charge soit complète?
Oui, médicalement parlant.
Médicalement.
Comme le docteur Andia a parlé de soins à domicile.
Oui, parce que le cas que nous vivons, si on parle à la maman d'aller à l'hôpital, elle dit, elle n'a rien, laissez-moi tranquille. Donc pour cela, il y a une nièce, c'est elle qui vient la consulter de temps en temps. Elle vient lui causer pour voir si elle n'a pas de problème. S'il y a des problèmes comme ça, elle fait référence au médecin traitant. Des fois, il vient à la maison, des fois, il dit qu'il n'a pas le temps, qu'on l'amène au centre. Et on est obligé de lui cacher là où on va. Parce que si on dit qu'on va à l'hôpital, elle refuse. Donc, si on veut que le médecin arrive à la maison pour lui faire une consultation à domicile, il faut assurer le déplacement de ces gens-là.
Justement, donc, venons à vous, Alhaji Oumarou. Donc, vous, en tant que président du Conseil national des personnes âgées du Niger, que faites-vous pour qu'il y ait amélioration dans la prise en charge sanitaire? Quelle action à court terme faites-vous pour qu'il y ait amélioration dans la prise en charge sanitaire des personnes âgées?
Merci beaucoup. Je pense que nous, notre rôle, d'abord, c'est d'approcher les autorités plus haut niveau d'abord. Et ensuite, comme il vous a dit, chaque fois, nous travaillons ensemble. Et nous recueillons leurs conseils. Et voyez-vous, on a beaucoup de projets. Et l'avantage, comme elle l'a dit, si on implique le conseil, c'est que ça va être... Parce qu'il y a des docteurs parmi nous. Et le conseil peut faire appel à toute personne, aux personnes ressources. C'est-à-dire que même si la personne n'est pas dans le conseil, on peut faire appel à elle. Donc, nous travaillons en synergie avec Dr India. Et vraiment, je pense que beaucoup de choses, c'est l'État. Parce que nous, on n'a pas les moyens. Nous, on propose et c'est à l'État de faire les choses.
Chères auditrices et auditeurs, c'est ici que prend fin notre émission Espace Femmes d'aujourd'hui, dans laquelle nous avons eu reçu comme invitée Madame Safiendo, personne vivante avec une personne du troisième âge. Merci de nous avoir répondu, Madame.
Merci à vous aussi, Maman.
Docteur Amdia Abdoulkader, médecin gériatre, merci de nous avoir répondu, Docteur
Merci beaucoup.
Et enfin, Elhaji Oumar Garba, président du Conseil national des personnes âgées du Niger. Merci beaucoup, Elhaji.
Merci aussi.
À la présentation, je suis Zainab Abdou et à la technique, nous avons Issa Lawali. À présent, nous vous laissons avec notre rubrique Loti.
J'en ai ras le bol. Wallah, je n'en peux plus. Où vais-je trouver toute cette somme? Vraiment, c'est... À chaque fois, vous ne faites que me demander de l'argent.
Le jeune marié. Mon cousin, qu'est-ce qui ne va pas? On t'entend depuis la porte.
Vraiment, cousine. Elle me fatigue beaucoup. Hier seulement, elles m'ont demandé 250 pour la cérémonie traditionnelle qui aura lieu la semaine prochaine.
Donc, hier, tu avais donné 250 000 à la jeune mariée. Moi, déjà, je pense que c'est toi. Hein?
Oui, c'est avec ça. Elles vont faire la décoration, la sonorisation, l'invitation des artistes percussionnistes, la tenue traditionnelle de la jeune mariée et des filles d'honneur aussi.
Ah, d'accord. Maintenant, c'est quoi le problème?
Cousine, le problème est que la jeune mariée vient tout juste de m'appeler pour me demander d'apporter 500 000 francs encore pour les deux autres cérémonies traditionnelles restantes.
500 000? Elle croit que tu ramasses l'argent ou quoi? Vraiment, c'est trop. Attends, donc si je comprends, elles veulent faire trois cérémonies traditionnelles pour un seul mariage?
Justement, Wayna.
Attends. Pourquoi faire autant de dépenses? Ils auraient dû programmer les trois cérémonies traditionnelles ensemble. Ce n'est pas mieux.
Exactement. C'est ce que j'essaie d'expliquer à ma future femme. Mais elle refuse catégoriquement de comprendre.
Anifa a refusé.
Wallahi, cousine, elle refuse.
Attends, sors ton téléphone et appelle-la. Je lui parlerai personnellement. Oui, c'est quoi ces manières? Faire trois cérémonies traditionnelles pour un seul mariage. Elle croit qu'on ramasse l'argent ou quoi?
Allô?
Oui, chérie, comment tu vas? Justement, je t'appelle concernant les trois cérémonies traditionnelles.
S'il te plaît, chérie, on en a déjà parlé. Ça sera trois cérémonies traditionnelles successives. On ne peut pas les faire ensemble. On fera la cérémonie traditionnelle de l'ethnie de mon papa, celle de ma mère et celui de votre ethnie, comme je vais bientôt intégrer votre famille. On s'est déjà mis d'accord sur ça bien avant que tu n'amènes ta dot, ou bien?
Oui, mais je ne savais pas que ça demandait autant de dépenses, chérie. 750 000 pour les cérémonies traditionnelles seulement. Hé, chérie, Bani, Bakarese, Walaisigin Bakarenno.
Hé, tu sais qu'on ne peut pas changer le programme en moins de deux semaines de la fête. J'ai déjà informé les gens. Que vont penser mes amis? Il ne faut pas me mettre la honte, s'il te plaît.
Diam, je ne vais jamais te dire.
Hé, passe-moi le téléphone. Belle sœur, nous te comprenons. Mais elle vient de réaliser que tout ça engendre énormément de dépenses. Avec les 250 000 qu'il avait données, vous pouvez faire les trois cérémonies traditionnelles ensemble. Et aussi, les invités peuvent par exemple porter chacun sa tenue traditionnelle.
Mais les gens ne vont pas aimer. Parce que toutes mes amies qui se sont mariées ont fait leur cérémonie traditionnelle séparément. Pourquoi c'est à moi de les combiner? Si c'est le cas, je vais tout annuler même.
Ah non, belle-sœur, faut pas tout annuler. Nous devons juste essayer de nous mettre d'accord. Faire des cérémonies traditionnelles est une bonne idée parce que ça nous permet de découvrir nos traditions. C'est juste que s'il dépense le pain qu'il a dans votre mariage, qu'est-ce que vous allez manger après le mariage, hein? Tu voudrais également vivre dans des bonnes conditions après le mariage ou bien?
Oui, belle-sœur.
Et n'oublie pas aussi la cérémonie du cocktail qui demande d'ailleurs beaucoup d'argent vu le nombre d'invités. Ne regarde pas ce que vont penser les gens. De toute façon, ils vont sûrement critiquer. Donc, il faut planifier les choses en fonction des moyens de ton mari. S'il avait les moyens, il n'y a aucun souci. Vous pourriez même faire les cérémonies traditionnelles de toutes les ethnies du Niger.
Tu as vraiment raison, belle-sœur. Maintenant, comment on va faire? J'ai déjà informé tout le monde et la cérémonie, c'est dans deux semaines.
Ah, ne t'en fais pas, ma belle. Vous pourriez juste faire une des annonces. En annonçant que toutes les cérémonies traditionnelles seront combinées. Il y aura des artistes qui vont bien animer, il y aura des belles décorations et les invités seront libres de porter leur tenue traditionnelle. Et tu verras, ma belle, comment la cérémonie sera grandiose. Cela permettra aussi à chacun de promouvoir son ethnie.
Voilà, c'est ce que je lui disais depuis.
Vraiment, c'est une bonne idée. Ça nous empêche aussi de faire beaucoup de dépenses avec les trois tenues traditionnelles, surtout nous les filles d'honneur.
D'accord, merci beaucoup pour vos conseils. Et désolée aussi chérie d'avoir contesté ta décision.
Ah non chérie, tu n'as pas à t'en faire. Tout est bien qui finit bien. Voilà, merci également à toi cousine d'avoir vraiment intervenu. Sinon, elle n'aurait jamais dû, pu accepter. Hein.
Ah, pas de quoi frangin, c'est la moindre des choses. Et aussi, merci à toi également, belle-sœur, pour la compréhension. Donc, puisque les trois cérémonies traditionnelles seront organisées ensemble, cousin, il faut leur augmenter un peu d'argent hein, pour que la cérémonie soit inoubliable. Ou bien, belle-sœur.
En tout cas, ton idée n'est pas mal.
Vous recommencez. C'est les Allemands qui disent « Oui, bon, bon, d'accord, Emadei, il n'y a pas de problème, je vais augmenter. » Ok, chérie, je te laisse à tes occupations. Prends soin de toi, je t'aime, bisous.
D'accord, chérie. Fais pareil de ton côté. À plus. Belle soeur, bye.
Bye, bye.